Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aigleté, de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons à partir d'aujourd'hui et pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région à travers une série la plus longue jamais proposée par Podcasting. Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Diaz Valderrama. Avant de commencer l'épisode 1, un petit point d'histoire pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas bien des circonstances de la guerre civile d'Espagne. Depuis 1923, le pays connaît la dictature militaire de Miguel Primo de Rivera. Le roi Alphonse XIII, pressé par les républicains, se voit contraint d'organiser des élections en 1931. Et ce sont justement les républicains qui l'emportent. La République est donc proclamée et le roi contraint à l'exil. En février 1936, c'est une coalition de gauche et d'extrême gauche, le Frente Popular, qui s'impose dans les urnes. Mais les monarchistes et les nationalistes n'acceptent pas ces élections. Sous l'impulsion du général Franco, l'armée se range à leur côté. Commence alors un conflit qui va durer 3 ans. Les républicains, pourtant démocratiquement élus, ne peuvent quasiment compter sur aucun soutien officiel. Les franquistes, eux, sont soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Au terme de 3 ans de conflit, le caudillo s'empare d'un pouvoir qu'il ne lâchera qu'à sa mort. En 1975, pendant cette guerre fratricide, des milliers de combattants et de civils restés fidèles à la République sont assassinés. Ceux qui le peuvent fuient et beaucoup arrivent en France. Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Épisode 1, une guerre à nos portes.
Le 5 septembre 1936, la ville espagnole d'Irun, aux portes de la France, tombe entre les mains des troupes du général Franco. Les caudillos dirigent le coup militaire qui, depuis le 18 juillet 1936, vise à renverser la jeune République espagnole, élue de façon démocratique par les citoyens espagnols en 1931. La presse bordelaise suit de près la situation en Espagne, et notamment au Guipuscoa, la province basque dans laquelle se trouve Saint-Sébastien. Les grands journaux de la ville ont tous des correspondants sur place qui rendent compte des opérations militaires, chacun avec son point de vue.
Un coup de force militaire au Maroc espagnol. Un millier de femmes et d'enfants arrivent à Bordeaux. Les rebelles sont aux portes de Saint-Sébastien.
La bataille d'Irun, entre août et septembre 1936, fait de nombreuses victimes militaires et civiles. Les nationalistes l'emportent sur les républicains et c'est le premier exode de la guerre. Plus de 10 000 personnes fuient la région. Les derniers défenseurs traversent en barque, voire à la nage, la Bidasoa, le fleuve qui sépare Irun d'Hendaye. Hendaye et Bayonne accueillent des blessés pour les soigner. Certains sont même dirigés vers l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Dès le 4 septembre, plus de 2000 réfugiés sont répartis dans le Grand Sud-Ouest. La gare des Saint-Jean, à Bordeaux, devient l'un des principaux décors de cette tragédie. On assiste à des manifestations de solidarité, mais aussi à quelques incidents. Car c'est le début d'un conflit qui mobilise, choque et divise la population locale. Ce n'est pas étonnant. À peine 200 km séparent Bordeaux de la frontière espagnole. Agnès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette guerre? C'est-à-dire, voilà, de conflits armés, de morts, de violences et de gens qui fuient et de migration. En Gironde, on a beaucoup de descendants de cet exil républicain. Dans les représentations qu'on en a, comme après la chute de la République, c'est vraiment Toulouse qui est devenue la grande ville de l'exil républicain. Ça a un peu masqué du coup le rôle qu'avait pu avoir Bordeaux. Or, pendant la guerre d'Espagne, Toulouse a un rôle très secondaire de passage, puisque notamment quand les réfugiés arrivent en bateau à Bordeaux, beaucoup, notamment les hommes, repartent combattre en prenant le train via Toulouse, Narbonne, Perpignan, Portbou, etc. Donc il y a un circuit comme ça. Mais en réalité, le rôle stratégique pendant la guerre d'Espagne, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux pour l'accueil des réfugiés et surtout pour le trafic d'armes.
Les archives départementales de la Gironde, situées dans les quartiers des Chartrons, sont un trésor pour les historiens et pour tous ceux qui s'intéressent à cette période, y compris en Espagne. En 2020, les archives ont accueilli une exposition, fauchée en partie par la pandémie, qui a aidé à rendre public les travaux de l'historien Bernard Lavallée sur le rôle que Bordeaux et les Bordelais ont joué dans la guerre d'Espagne.
La guerre civile a servi en fait de révélateur à des tensions qui existaient déjà au sein de la société française, mais qui là vont avoir un lieu de combat très important, parce que derrière ce qui se passe en Espagne, se pose le problème en France de l'avenir du Front populaire et aussi de l'avenir des forces de l'extrême droite qui, on l'a oublié aujourd'hui, étaient très puissantes, et notamment dans une ville comme Bordeaux. Donc, à bien des égards, la guerre d'Espagne va être un révélateur pour ces forces politiques françaises, d'autant plus que, dans notre région, les incidences, les impacts de la guerre qui se passe de l'autre côté de la frontière sont nombreux et importants dans la ville de Bordeaux et dans la région.
Dans ces premiers épisodes, on va donner quelques éléments pour savoir ce qui s'est passé entre 1936 et 1939 et comprendre davantage dans quel contexte des milliers d'Espagnols fuient l'Espagne et viennent plus tard s'installer en France. Dans la guerre d'Espagne, deux bandes ennemies vont s'affronter. L'armée, la haute bourgeoisie et l'Église représentent d'un côté les vieux mondes qui refusent de céder ses privilèges. Ce sont les nationalistes. Ils se sont levés dans ces coups d'État dirigés par les élites militaires contre le gouvernement en place qui, depuis février 1936, est formé par un front républicain des gauches. Attention, pendant les 5 années de vie de la République, il y a eu de gouvernements multiples, aussi de droite. Mais cette République a été en 1931 un symbole d'espoir, notamment pour les milieux populaires et nombre d'intellectuels qui attendent de nouveaux régimes, des transformations politiques, économiques et sociales pour un pays resté largement archaïque et inégalitaire. La Constitution promulguée en 1931 est l'une des plus démocratiques d'Europe. Elle reconnaît les droits fondamentaux d'expression, réunion et association, instaure un régime parlementaire avec des principes laïcs affirmés, comme les mariages civils, le droit au divorce, et elle donne aussi le droit de vote aux femmes. Pour rappel, en France, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes puissent voter. Dans un pays où plus d'un tiers de la population est analphabète, les gouvernements cherchent aussi à rendre l'école laïque, gratuite et mixte. On construit des écoles et on envoie des missions pédagogiques dans les villages les plus reculés pour diffuser la culture avec des bibliothèques ambulantes et des groupes de théâtre universitaires comme La Barraca, créé par le poète et écrivain Federico García Lorca, qui fait découvrir les théâtres aux habitants des zones rurales. Bref, vous l'avez compris, les ambitions étaient très hautes, les espoirs aussi. Mais malgré les réformes, la jeune République est loin d'être parfaite. Et elle est marquée par la division et l'hostilité des officiers, du clergé et des grands propriétaires. Le militaire tente un coup d'État, déjà en 1932, qui échoue, et les puissantes confédérations syndicales voient l'air basse, impatient, se radicaliser. Les mouvements sociaux se multiplient et ils sont durement réprimés. Mais pour l'instant, revenons à 1936 et à la France où l'écho de la guerre est particulièrement fort.
On the European stage, it's the dictator's turn, so give them music.
Ce qui fait l'ampleur internationale de la guerre d'Espagne, c'est le contexte européen dans lequel elle se situe. Les années 30, c'est une décennie très importante pour le monde et pour l'Europe en particulier. D'abord, du point de vue économique, puisque notre continent est frappé par les conséquences nombreuses et longues de la crise de 1929, mais aussi parce que, sur le plan politique, il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent. Un qui s'accentue, qui est le fascisme italien, qui est déjà là au début des années 30, et puis surtout, le nouveau contexte créé par l'arrivée au pouvoir en 1933 des nazis en Allemagne, qui va complètement changer le contexte européen, puisqu'il se situe, pour l'Allemagne, dans une perspective de revanche, d'affirmation nationaliste et de violence. Et en fait, la décennie des années 30, à partir surtout des années 33, est marquée dans notre continent par la montée des périls qui aujourd'hui nous apparaît très clairement, mais qu'à l'époque, les contemporains n'ont pas vu aussi clairement, soit par aveuglement, soit peut-être pour certains par lâcheté, et d'autres aussi, par intérêt.
À Paris, le chef de gouvernement, Léon Blum, est surpris quand il apprend par une lettre de l'ambassade de France à Madrid qu'il y a une révolte de l'armée. Mais la nouvelle arrive tard. La presse s'était déjà fait écho de cette information. Qu'est-ce qui se passe en Espagne ? Se demandent les journaux. Au début, le Front populaire français qui est au pouvoir s'est dit prêt à aider ses amis en Espagne. Ils sont sollicités des armes et des avions. La volonté initiale est honnête, mais la question va rapidement devenir plus compliquée. La presse de droite et d'extrême droite affirme qu'intervenir en Espagne serait le début d'une deuxième guerre mondiale. L'Angleterre aussi s'y oppose. La pression médiatique touche certains membres du gouvernement qui craignent la menace de l'Allemagne. Fin août 1936, les pays européens signent un accord de non-intervention, mais ce pacte est mort-né. L'Allemagne et l'Italie et Franco dès le début de la guerre. En octobre 1936, l'Union soviétique commence à son tour à envoyer des armes au gouvernement républicain espagnol et aux milices apparues au début de la guerre, réorganisées quelques mois plus tard. Parmi ces milices, le célèbre Brigade internationale. L'historienne Geneviève Dreyfus-Armand explique comment se sont déroulées ces interventions étrangères.
Alors, l'aide apportée par l'Italie fasciste de Mussolini, celle apportée par l'Allemagne nazie d'Hitler ne sont rien comparables à celles apportées par l'Union soviétique. L'Italie et l'Allemagne ont envoyé beaucoup d'hommes en Espagne et aussi beaucoup de matériel très moderne. C'était pour eux l'occasion de tester leur matériel de guerre, notamment l'aviation de guerre, alors que l'Union soviétique, de façon extrêmement prudente, a décidé non pas d'intervenir elle-même, mais de faire appel à des volontaires, et ce, au mois de septembre 1936, des volontaires internationaux. Et ça a été, sous l'égide du Comintern, de la Troisième Internationale, la constitution des brigades internationales, ce qui permettait à l'Union soviétique de ne pas intervenir directement aussi. Et son aide à l'Union soviétique a été effectuée moyennant finance, c'est-à-dire que toutes les livraisons d'armes, de matériel, l'envoi aussi de conseillers militaires et politiques en Espagne par l'Union soviétique ont été payés par la République espagnole. Ça, il faut le souligner. C'était une intervention différée par rapport à celle de l'Allemagne et de l'Italie. Extrêmement réduite, finalement, et surtout, la République a dû envoyer en Union soviétique des tonnes d'or de la Banque d'Espagne.
Bernard Lavallée.
Pourquoi la non-intervention ? Il ne faut pas se voiler la face. La non-intervention a été voulue par l'Angleterre, et le gouvernement français, par faiblesse ou par nécessité, je ne sais pas exactement, s'est rangé derrière cette théorie et cette pratique. Pourquoi l'Angleterre ne voulait pas d'intervention en Espagne ? Sans doute parce que, il ne faut pas l'oublier, l'Angleterre avait d'énormes intérêts en Espagne, dans les mines, dans les charbonnages, dans l'industrie. Et en fait, ce que le gouvernement anglais voulait avant tout, c'était préserver les intérêts anglais dans la péninsule. Le gouvernement français n'a pas voulu ou n'a pas pu s'opposer à cette volonté anglaise et donc à laisser les choses en l'état. Ceci dit, il ne faut quand même pas oublier non plus que même si officiellement la France a suivi la politique de la non-intervention, en sous-main, de façon plus ou moins clandestine, la France a continué à aider la République espagnole, mais bien entendu, pas avec l'importance, pas avec les moyens qu'elle aurait pu mettre dans l'opération si la non-intervention n'avait pas été la doctrine officielle.
Le port de Bordeaux va jouer un rôle important dans la guerre avec les trafics d'armes. Mais ça aussi, on y reviendra plus tard. Car pendant la guerre, c'est un autre coin du sud-ouest qui devient intéressant. Il s'agit de la côte basque, un vrai nid d'espions. C'est une histoire méconnue que Bernard Lavallée raconte avec détail dans son livre « Car ces combats, elle est nôtre ». Le titre, d'ailleurs, reprend cette phrase utilisée dans les manifestations pro-républicaines qui ont eu lieu à Bordeaux au début de la guerre espagnole.
Traditionnellement, le roi Alphonse XIII allait passer les mois d'été à Saint-Sébastien. Et de ce fait, le corps diplomatique en poste à Madrid se transportait lui aussi à Saint-Sébastien. Lorsque la République a été proclamée en 1831, le roi n'est plus allé à Saint-Sébastien puisqu'il était en Italie, mais le corps diplomatique a continué à aller passer les vacances à Saint-Sébastien. Et lorsque la guerre se déclare, le corps diplomatique est à Saint-Sébastien, mais il y a une bataille pour la prise d'Irun par les franquistes, ou plutôt par les requetes carlistes de Navarre. Madrid est très vite sous les bombes, puisque Madrid se trouve sur la ligne de front. Et donc, le corps diplomatique étranger, toute nationalité confondue, en Espagne, se retrouve sur la côte basque française, disons entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.
Le dernier roi d'Espagne avant la proclamation de la République est Alfonso XIII. Il quitte l'Espagne dès que le résultat des élections est connu et il s'installe entre Paris et Rome. Beaucoup de diplomates n'échangent pas leur habitude pour autant et fuient la chaleur de Madrid pour se réfugier sur les côtes basques.
Et donc, vous imaginez, dans le contexte de l'époque, ce que cela signifie. Parce que c'est un contexte de guerre. Les représentations diplomatiques correspondent, enfin, sont amies d'un côté ou de l'autre. Et donc, dans ce contexte, on va voir se développer sur la côte basque véritablement des nids d'espions. Dans les archives, on a des documents qui disent, ben voilà, dans tel hôtel, il y a telle et telle et telle personne qui sont officiellement cuisiniers, réceptionnistes ou chefs de rang, je ne sais, qui travaillent à la réception, mais qui en fait sont des agents italiens ou allemands. Et en plus de cela, il y avait à Saint-Jean-de-Luz une villa qui s'appelait Nacho Enea, qui était une villa qui appartenait à une famille basque assez connue, et qui en fait était une officine des carlistes en France, qui assurait les transferts d'argent entre l'Espagne et la France, puisque la frontière était fermée, donc qui, elle, réussissait clandestinement à faire transférer de l'argent, à faire passer des gens, à donner des horaires de train si on voulait aller en Espagne, après ils ont fait passer la frontière et vous aider, et également qui servaient de boîte à lettres. C'est-à-dire que si on voulait écrire en Espagne, on portait la lettre chez eux et eux se chargeaient de faire arriver ce courrier en Espagne. Donc, vous voyez, l'ambiance est déjà sur la côte basque. Mais il y avait plus que cela. Il y avait plus que cela parce que à Irun, il y avait un service de renseignement espagnol. En Espagne, il y avait un renseignement de service espagnol qui était sous l'autorité d'un officier qui s'appelait Troncoso, était en fait chargé d'organiser le renseignement dans le sud-ouest français. C'est-à-dire qu'il avait des agents, dont certains sont d'ailleurs identifiés, qui lui permettaient de savoir ce qui se passait, en particulier de savoir ce qui se passait du point de vue des aides à la République, mais aussi de mener des actions. C'est ainsi que, par exemple, il a réussi, grâce à un coup de main dont je raconte les détails dans le livre, il a réussi à récupérer au Verdon, au port du Verdon, un pétrolier qui s'appelait le Campo Amor. Et une nuit, il est arrivé avec une sorte de commando, enfin, il n'y était pas, mais il a envoyé une sorte de commando qui a, grâce à des complicités bien sûr parmi l'équipage du Campo Amor, qui a réussi à récupérer le bateau. Il a essayé aussi de récupérer un sous-marin espagnol qui avait été endommagé lors de la prise de Gijón aux Asturies et qui était à Blaye. Mais là, il n'a pas persisté parce que le sous-marin avait été endommagé et il ne pouvait pas repartir. On a trouvé des filières qui approvisionnaient, en particulier en moteurs d'avion, les franquistes, avec la complicité de transporteurs du Pays Basque. Et les moteurs étaient emmagasinés à Bordeaux pour certains, à Bayonne pour d'autres, et ils passaient la frontière à Sarre, au Pays Basque.
Mais alors, c'est une véritable guerre froide qui s'est jouée en Aquitaine.
C'était une guerre plus que froide, parce qu'il y a eu des attentats. Par exemple, les services de renseignement espagnols franquistes ont fait brûler l'aéroclub aujourd'hui, mais le petit aérodrome de Roger, qui se situe à l'est, dans la banlieue de Villeneuve-sur-Lot, et qui était un centre d'entraînement de pilotes républicains. Et il y a un aspect auquel on ne pense jamais, mais qui est très important et qui concerne le Sud-Ouest, c'est qu'il y avait aussi la guerre dans le golfe de Gascogne, sur mer. La mer rejetait et a rejeté au cours de l'année 37 et une partie de l'année 38 des cadavres des Landes jusqu'en Vendée, des gens dont l'autopsie a montré qu'ils avaient été soit noyés, soit tués avant d'être jetés à l'eau, qui étaient souvent blessés. Et en analysant les vêtements, on s'est aperçu que c'était des vêtements espagnols. Donc c'était des corps espagnols qui avaient été rejetés par la mer. À plusieurs reprises, des bateaux de pêche d'Arcachon ont failli toucher des mines qui dérivaient dans la mer. Au moins à une reprise, peut-être à deux, les bateaux de pêche d'Arcachon ont eu interdiction de sortir du bassin à cause des risques de mines.
Je pense à ma rencontre avec Agnès Vatican. Je lui demande pourquoi les archives départementales se sont intéressées à cette question. Je l'interroge sur le rôle qu'a joué la Gironde dans cette guerre qui aura bientôt 100 ans, sur l'exil espagnol dans cette région frontalière, et je réponds à une phrase qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une guerre à nos portes ? Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup des personnes qui peuvent témoigner directement. Elles sont nées en Espagne, et elles pensaient grandir là-bas, et du jour au lendemain, elles ont été forcées à partir. Certaines ne sont jamais revenues, et elles sont françaises aujourd'hui. Mais aussi espagnoles. Elles sont une double culture, même si je me dis que l'Espagne n'a pas suffisamment fait pour récupérer ses enfants espagnols. Moi-même, j'ai grandi en Espagne jusqu'à mes 22 ans, et je n'étais pas vraiment consciente de l'histoire tragique de ces personnes. Je vais comprendre qu'elles sont, d'une certaine façon, les gardiennes d'une mémoire oubliée en Espagne, mais aussi en France. Une mémoire entre frontières. Je me propose donc pour les prochains épisodes de les rencontrer et de les interviewer pour comprendre davantage cette période difficile.
Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida, de apenas tiempo, me toca a mí y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en daño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Meto camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Merci Maria Diaz Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Taïeb, illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.